Jean-Noël Jeannenet, pourquoi vous vous intéressez à l'histoire ?
L'histoire, c'est une discipline reine à mes yeux. Au fond, elle combine, elle offre beaucoup de satisfaction conjuguée. Le goût de restituer des moments, des conjonctures, des épisodes, des biographies. Le sens de la distance par rapport à notre quotidien et ce que nous sommes. Et en même temps, elle est indispensable pour comprendre précisément notre époque, je le crois. Car chaque conjoncture, chaque instant de l'histoire des hommes est faite non pas par ce qui est uniquement en surface et qui attire normalement l'attention des journalistes, mais aussi par d'autres évolutions qui sont plus lentes. C'est un peu comme une sorte de feuilleté temporelle, suivant l'expression du grand historien que fut Jacques Le Goff. On pourrait aussi prendre une comparaison géologique. Il y a des mouvements plus lents, des évolutions qui se déroulent en termes décennaux ou bien de générations, et puis d'autres qui sont séculaires. Et enfin, probablement, à la base de tout, des mentalités qui bougent extrêmement lentement. Eh bien, cette histoire telle que je la comprends permet de regarder le bombardement des nouvelles contemporaines, de le regarder avec plus de distance et de se donner les instruments intellectuels, des instruments affectifs aussi, de mieux comprendre là où nous sommes, ce que cela signifie, et par conséquent de servir à la fois la compréhension de notre présent et éventuellement l'action des hommes publics et l'action des citoyens qui sont aussi en démocratie à la manœuvre pour faire évoluer les choses.
Jean-Noël Jeannenet, d'où elle vous vient cette passion pour l'histoire ? C'est une passion familiale ? C'est une passion qui est peut-être venue aussi à travers votre tour du monde que vous avez fait en sortant de l'école normale ?
Est-ce familial ? Je ne sais pas. Il est vrai que le hasard m'a fait naître dans une famille très, très représentative d'une certaine promotion sociale de la Troisième République. Un arrière-grand-père qui était paysan, son fils qui était commissaire-priseur, mon grand-père bon élève au lycée et étant devenu parlementaire, il était président du Sénat. Et j'ai été élevé effectivement dans l'idée que la politique c'était rudement intéressant et aussi que s'il arrivait qu'on en décida d'en faire, alors il fallait avoir une activité, un métier, exister en dehors pour pouvoir à n'importe quel moment dire non et démissionner. Le plus redoutable quand on est dans l'action politique, c'est d'être tellement dépendant des fonctions que vous occupez pour la vie quotidienne, pour la vie de votre famille, que vous ne pouvez pas vous en détacher.
Est-ce que dans l'histoire, il y a des hasards, il y a des coups de chance, il y a des coups providentiels ?
Ah, c'est une immense question et vous savez que c'est un des sujets les plus passionnants à étudier quand on réfléchit en historien et en citoyen, car on est là quelque part entre deux interprétations possibles. C'est Chamfort, le moraliste de la fin du XVIIIe siècle, qui disait pour beaucoup, au fond, le hasard c'est le sobriquet de la providence. Et en sens inverse, pour ceux qui parlent du hasard, c'est peut-être tout simplement une manière de parler de Dieu. Il y a eu toujours des traditions qui ont été portées par les religions monothéistes, c'est-à-dire que c'est finalement qu'à la fin des fins, c'est Dieu qui détermine l'histoire des hommes. Ce qui pose immédiatement, évidemment, la question de la liberté. Puis en sens inverse, ceux qui disent, au fond, tout ça n'arrive jamais que d'une manière inopinée. L'histoire des hommes, c'est une série de moments juxtaposés, gouvernés par la fortune, par la contingence. Il me semble qu'il faut déterminer pour nous, hommes libres, un chemin entre les deux. C'est admettre qu'il y a des tendances profondes qui... Alors, on peut appeler ça, si on est croyant, je ne le suis pas, si on est croyant, on peut appeler ça effectivement la volonté de Dieu. Mais refuser qu'il y ait des forces profondes, c'est devenir une sorte de jouet du hasard. Et c'est à peu près insupportable. Et en plus, je crois que c'est faux. Même un grand homme comme Bossuet, il fait un discours de l'histoire universelle où il explique que tout ce qui arrive est de la volonté de Dieu. Et en même temps, il le fait à destination du dauphin, pour lui dire, si vous connaissez l'histoire, vous serez un meilleur prince. Et vous pourrez exercer votre liberté au profit de l'intérêt du pays dont vous avez la charge. Ce qui veut dire que d'un même mouvement, il dit que tout est de la volonté de Dieu et en même temps que la liberté demeure. Il reste que c'est entre les deux, me semble-t-il, qu'un homme ou une femme de bien peuvent définir leur action, sachant que beaucoup de force qui détermine l'époque où il vit et qui détermine son propre destin, beaucoup de force lui échappe. Et qu'en même temps, à chaque moment, il lui est loisible de pouvoir, à son tour, faire tel ou tel choix.
Alors justement, vous parlez de choix. Et dans les titres de vos livres, dans votre thèse aussi, il y a des choix de personnages. Il y a Georges Mandel, il y a François de Vindel, il y a Clémenceau. Pourquoi ce choix ?
Pour des motifs souvent différents. Ce qui m'a intéressé dans le cas de François de Vindel, c'était de réfléchir à l'influence des forces exogènes sur le fonctionnement de la vie politique, c'est-à-dire là, les forces de l'argent. Donc d'étudier à la fois la réalité et les limites de ce pouvoir, limité d'ailleurs en partie par le fait qu'on le connaissait, ce pouvoir, et qu'on le mythifiait, et d'autre part, les légendes qui l'entouraient. C'était donc, à cet égard, une réflexion de politique sur la vie politique et sur la démocratie. Dans le cas de Mandel et de Clémenceau, ils sont assez liés. Mandel a été un collaborateur de Clémenceau. Il était un grand talent. En 1940, il frôle un grand destin. Il aurait pu jouer le rôle que De Gaulle a joué à Londres. Et donc, j'ai voulu réfléchir à cet échec. Et Clémenceau, alors là, il y a un aspect familial, parce que mon grand-père a été son ministre en 1917-1919, au moment de la fin de la guerre, et que j'ai joué enfant sous la cheminée qui portait le buste de Clémenceau. Par la suite, c'est surtout le personnage qui m'a intéressé, car il est plein de contradictions, de force, d'énergie.
C'est le dernier livre que vous venez de sortir, Clémenceau, Dernière nouvelle du tigre. Qu'est-ce que vous avez voulu y mettre dans ce livre ?
J'ai voulu étudier beaucoup de facettes de ce personnage qui est extrêmement varié. Il y a l'aspect politique, évidemment. Et puis, ce que j'aime en lui aussi, c'est sa culture. Sa curiosité universelle du monde. À 82 ans, il va faire encore une sorte de tour du monde. Il va en Indonésie, en Inde, chasser le tigre, etc. Alors que ce personnel politique était assez casanier. Et puis il y a chez lui un appétit de connaissance de l'Asie, en particulier de l'Asie. Et il a été également violemment anticolonialiste.
Jean-Noël Jeannonet, vous dites que Clémenceau a plusieurs facettes, mais vous aussi, vous avez plusieurs facettes. Vous nous parlez de l'histoire, vous avez été professeur d'histoire contemporaine, professeur des cultures, et vous avez été aussi professeur de l'histoire des médias. Et vous avez été, dans votre parcours, président, entre autres, de Radio France. Les médias, c'est votre passion de transmettre l'histoire, de transmettre une réflexion sur le présent à partir de l'histoire ? Pourquoi les médias ?
Oui, je me suis toujours intéressé aux médias. D'abord parce que j'ai eu le goût de m'en mêler un peu, c'est-à-dire de ne pas rester toujours au bord du fleuve, et à certains moments, quand on me le permettait, de nager un peu. C'est une occasion qui m'a été donnée. J'avais 40 ans, c'était magnifique de pouvoir en effet diriger cette très belle maison de Radio France. Cela m'a permis d'abord de considérer l'utilité d'avoir dans ce champ des ressorts différents. Je veux dire qu'à côté du capitalisme triomphant, du ressort de la recherche du profit, qui a ses avantages, ça permet de se décarcasser, comme disait De Gaulle, et cela évite que le service public soit tout seul et par conséquent risque de se replier un peu sur lui-même. Mais à côté, il faut le ressort du service public. Et Radio France en est un exemple tout à fait topique. France Culture, dont je parle chaque semaine, n'existerait pas si on confiait simplement les médias, comme dans certains pays malheureusement, à l'argent privé. Donc c'est une occasion de réfléchir à tout ça. Et plus précisément, j'ai toujours été fort intéressé par la question des relations entre l'instantané de ce qu'expriment les médias et la durée en profondeur de ce qui circule et que nous évoquions il y a un instant. J'ai toujours pensé que les institutions qui sont chargées de développer l'information et la culture étaient très intéressantes parce qu'elles sont une sorte de résumé de la société tout entière. Donc la question de l'autorité, la question de la diversité des métiers que cela implique. Radio France, c'est très intéressant parce que c'est à la fois, cette maison ronde que vous connaissez doit être à la fois protégée contre les risques extérieurs, contre des assauts du terrorisme ou autrement, puisque comme elle est très symbolique, elle attire ce genre d'action. Et en même temps, elle doit être absolument ouverte puisque c'est la maison du peuple, la maison des citoyens. Et quand on est responsable de Radio France, je l'ai été donc pendant plus de 4 ans, on est constamment préoccupé de cela. Les médias, de surcroît, dernière raison, sont en plein mouvement technologique. Et en même temps, quel défi, quel champ pour toutes les rumeurs, parfois toutes les toutes les infamies. Et j'observe, je termine là-dessus, j'observe que l'invention de l'imprimerie a été un des motifs parmi tant d'avantages des guerres de religion. Et nous voyons hélas qu'aujourd'hui, les nouvelles technologies servent aussi les passions religieuses et les excès dont ont toujours témoigné les religions monothéistes à leur marge, mais d'une manière aujourd'hui beaucoup plus préoccupante.
Merci Jean-Noël Jeannonet.